déjà fait. Nous sommes le samedi 2 août, ensemble jusqu'à 9h. Bonjour, soyez les bienvenus sur France Inter. Il est 6h.
Amélie Perrier, le 6-9.
De grandes femmes pour le 6-9 ce matin, puisqu'à 7h50, notre première invitée sera Cléopâtre, ou plutôt le commissaire de l'exposition qui explore son mystère à l'Institut du Monde Arabe, Claude Mollard. Et à 8h20, toutes en selle, on part sur le Tour de France Femmes, qui nous passionne autant que celui des hommes cette année, avec des épreuves disputées, des victoires françaises. Pour en parler, la directrice du Tour, Marion Rousse, sera en ligne avec nous, accompagnée de notre journaliste qui ne manque pas un tour, Fanny Lechevestrier, et du patron de l'équipe FDJ Suez, Stéphane Delcourt.
France Inter.
Dans l'actualité, en revanche, un homme ne cesse d'accaparer l'attention mondiale. Donald Trump brandit la menace nucléaire contre la Russie. Il a ordonné hier soir le déploiement de 2 sous-marins nucléaires. Réaction, a commenté le président des États-Unis, à des propos de l'ex-dirigeant russe Dmitri Medvedev, sans préciser lesquels. Après une accalmie, Washington durcit le ton donc contre Moscou. L'Américain s'impatiente de ne pas réussir à mettre un terme à la guerre contre l'Ukraine.
On n'a pas eu le choix, c'était une précaution nécessaire. Il y a eu une menace inappropriée. Il fallait que je sois prudent. Je l'ai fait pour la sécurité de notre population. Un ancien président russe nous a menacés. Je vais nous protéger.
Il n'y a pas vraiment de patience non plus quand il s'agit des résultats économiques du pays. L'agence de statistiques américaine a annoncé hier matin une forte révision à la baisse du nombre d'emplois créés en mai et en juin aux États-Unis. Des chiffres au plus bas depuis la pandémie de Covid, plombés a priori par les surtaxes douanières décrétées par Donald Trump. Ce dernier a demandé quelques heures plus tard le licenciement de la chef de l'agence de statistiques, l'accusant d'avoir truqué les données pour donner une mauvaise image de lui. En Colombie, la peine maximale contre un ancien chef de l'État, Alvaro Uribe, condamné à 12 ans d'assignation à résidence, reconnu coupable d'entrave à la justice. Il était poursuivi pour avoir fait pression sur des témoins afin d'éviter d'être associé à des milices d'extrême droite dans sa guerre sanglante contre des guérillas colombiennes. Le dirigeant de droite, âgé de 73 ans aujourd'hui, se voit aussi interdire d'exercer toute fonction publique pendant plus de 8 ans et devra payer plus de 800 000 $ d'amende. Lui pourrait bien passer du stade au tribunal. Le joueur du PSG, Achraf Hakimi, accusé de viol par une jeune femme en 2023. Le parquet de Nanterre requiert son renvoi devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine. L'international marocain conteste le viol. Il appartient désormais au magistrat instructeur d'ordonner ce procès ou non. En France, c'est jour de grand départ. Peut-être nous écoutez-vous dans la voiture et l'on va essayer de vous rendre les bouchons moins pénibles, car Bison Futé a classé la journée noire dans le sens des départs sur l'ensemble de l'Hexagone. En Ile-de-France, la circulation était déjà dense cette nuit. Dans le sens des retours, c'est légèrement plus fluide. Le pays est en jaune et tout le pourtour méditerranéen en rouge. Quelques petits conseils de la sécurité routière. Si vous prenez le volant, Florence Guillaume en est la déléguée interministérielle.
Premier point, si vous avez sommeil, c'est vous arrêtez tout de suite, vous faites les pauses nécessaires pour être confortable en fait en conduisant, vous bannissez votre téléphone portable et enfin vous êtes attentif aux distances avec les autres véhicules, notamment quand il y a la circulation en accordéon pour vraiment toujours vous donner le temps et la distance de freiner.
Florence Guillaume de la sécurité routière interrogée par Camille Salcedo Ruiz. Elle roule vite, très vite, la Brestoise Maëva Skiban. La cycliste a surpris tout le Tour de France hier en remportant à l'audace une deuxième victoire d'étape d'affilée entre Bourg-en-Bresse et Chambéry. On en parle tout de suite dans le journal du Tour. Et après ce hors-d'œuvre alpestre, on entre dans le vif du sujet pour les favorites du classement général. Ce soir, l'étau va sérieusement se resserrer et on devrait déjà avoir une petite idée de celle qui inscrira son nom au palmarès de l'édition 2025. Car pour la première fois de sa jeune carrière, le peloton féminin va s'attaquer au mythe du col de la Madeleine en Savoie. Et c'est plus de 18 km d'ascension, Fanny Lechevestrier.
Et dès que vous parlez de ce col alpin et de son arrivée à 2000 mètres d'altitude, les yeux des coureuses pétillent dans un mélange d'impatience et de plongée dans l'inconnu, décrit Aude Bianic.
J'ai hâte de voir la Madeleine, c'est vrai que voilà, ça va être un col mythique à grimper. Il y a fort à faire, c'est sûr, mais j'espère que l'ambiance sera au rendez-vous et que ça va nous faire oublier un peu le douleur des jambes.
Mythique, car là où tant d'histoires du Tour Homme se sont scellées, de Raymond Poulidor à Jonas Vingegaard, en passant par Richard Virenque. La Madeleine, érigée en juge de paix, là où l'on saura si Pauline Ferrand-Prévot allégeant pour remporter la course dès sa première participation. La grimpeuse Juliette Labousse, coéquipière de luxe de Demi Vollering, en salive d'avance.
Ça fait un petit moment qu'on l'a fixé comme objectif avec l'équipe. C'est vraiment là où je pense que les plus gros écarts vont se créer. Donc il nous tarde quand même d'y être.
Et vous l'avez compris, tout ont hâte d'y être pour savoir, pour découvrir, même celles qui s'attendent à y souffrir comme rarement, à l'image de Dilixine Miermont.
Ouais, c'est sûr que je pense que ça va pas être facile. Hein. Je pense qu'il vaut mieux pas savoir ce qui nous attend. Ça sera un peu mode survie.
Et en mode fierté aussi, et surtout d'avoir le droit d'enfin croquer dans la Madeleine.
Le point, le journal du Tour avec Fanny Lechevestrier. Les horaires à retenir pour vivre cette étape mythique qui mènera le peloton de Chambéry à Saint-François-Longchamp, en haut du col de la Madeleine. Départ à 13h45, arrivée prévue aux alentours de 17h30. Il est 6h05. L'heure de faire un premier point sur la météo. C'est avec vous ce matin, Magali Rochereau. Bonjour.
Bonjour Amélie, bonjour à tous.
Et encore des averses sur l'est du pays.
Et oui, quelques ondées tombent ce matin sur les Pyrénées et le relief du massif central qui iront jusqu'à l'instabilité cet après-midi avec un risque d'orage sur les frontières de l'Est. À l'arrière, dans la Traîne, vous êtes sous les nuages et les averses des Hauts-de-France, au nord des Alpes et sur l'Auvergne, tandis qu'un franc soleil brille toute la journée autour de la Méditerranée grâce au Mistral et à la Tramontane. Attention, qui favorise toujours le risque de feux de forêt. Sur la façade atlantique, le ciel se dégage de plus en plus au fil de la journée, mais il reste nuageux avec des éclaircies dans les terres.
Et les températures restent un peu fraîches.
Oui, ce matin, on retrouve des minimales sous les normales dans le quart nord-ouest. Météo France relève 11 degrés à Quimper pour votre réveil, 12 à Orléans et 16 dans la capitale. Et cet après-midi, la moitié sud conserve ses valeurs de saison de 24 à 30 degrés et de 30 à 32 dans la région sud-est, 29 à Marseille comme à Ajaccio et jusqu'à 32 à Nîmes, tandis que les maximales seront 2 à 3 degrés en dessous dans le nord, de 20 à 26 degrés. Vous aurez 21 à Saint-Brieuc, 22 à Cherbourg et 24 dans la capitale.
Merci beaucoup Magali Rochereau.
Cet été, jouez avec France Inter.
Bonjour, je m'appelle David, David Castello-Lopez. Comment appelle-t-on ce tic qui consiste à mettre des 1 à la fin de certains mots? Par exemple, bonjour. Eh bien, si vous le savez, vous êtes prêt pour Mousse-Mousse, un jeu dans lequel des candidats issus du monde des gens connus s'affrontent dans un combat à mort pour le triomphe de la culture générale. Un jeu avec de la connaissance, mais aussi du fun.
Mousse-Mousse.
C'est tous les samedis de l'été à 11h sur France Inter.
France Inter, il est 6h07. Je vous ai dit qu'on parlerait sport ce matin. Alors on se met en jambe dès maintenant avec l'énergie des Québécois de Choses Sauvages. Un savant mélange de cold wave furieuse et de rock abrasif. Ça réveille autant que le café du matin. Ils sont en playlist d'été avec leur morceau Fixe sur Inter.
We'll be right back.
Je vous ai dit que ça réveillait. Chose sauvage et leur titre fixe est sorti cette année.
France Inter, Amélie Perrier. Le 6-9.
Les podcasts du week-end, c'est votre coup de cœur. Bonjour Martin Broyer.
Bonjour Amélie, bonjour à toutes et tous.
Ce matin, vous nous parlez d'un podcast qui refait l'histoire.
Imaginons Amélie qu'un événement historique ne se soit pas déroulé comme prévu. Le cours du temps aurait-il été changé? Non, je ne vais pas évoquer Retour vers le futur ce matin, mais le podcast L'effet papillon.
Et pour ça, on retourne dans le passé.
Nous sommes en février 1848, Amélie. Le Mexique vient de céder la Californie aux États-Unis, mais quelques jours plus tôt, au cœur de la Sierra Nevada, un événement décisif se produit.
Un homme vient de faire une découverte. Parti inspecter l'avancée des travaux d'une scierie, James Marshall remarque de petites taches brillantes au fond d'un ruisseau, dans à peine 15 cm d'eau. Il en ramasse quelques-unes, à tout hasard.
James Marshall ne le sait pas encore, mais il vient de découvrir l'un des plus gros gisements d'or de l'époque. C'est le début d'une période faste pour les États-Unis, la célèbre ruée vers l'or.
La région devient bientôt un immense chantier. De partout, on tamise, creuse, retourne, fracasse, ratisse. Des heures durant, dans de l'eau froide, on pèlte des tonnes de boue pour en extraire quelques grammes d'or. Des millions de dollars sont arrachés des flancs de la montagne. Sous forme de paillettes, de poudre ou de pépites, 76 tonnes d'or sont extraites en moins de 2 ans. Il n'y a pas un mètre carré de terrain qui ne soit pas retourné et inspecté.
Donc ça, Martin, c'est ce qui s'est vraiment passé, mais ce podcast imagine une autre version de l'histoire.
Oui, c'est là que l'effet papillon plonge dans l'Uchronie. Que se serait-il passé si James Marshall avait fait sa découverte de pépites d'or alors que la Californie eût toujours appartenu au Mexique?
Rapidement, la nouvelle serait arrivée aux oreilles du gouvernement mexicain qui aurait probablement refusé de céder ce nouvel Eldorado. La Californie serait alors restée un territoire mexicain. Aujourd'hui, la Californie est devenue le 6e État le plus riche du monde. Si elle était mexicaine, le rapport de force dans l'échiquier mondial serait totalement inversé. On peut même imaginer la construction d'un grand mur à la frontière mexico-américaine pour empêcher les clandestins américains de pénétrer illégalement sur le sol du plus puissant pays du monde, le Mexique.
Une belle ironie de l'histoire quand on sait ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Mais l'effet papillon ne contient pas que cet épisode sur la ruée vers l'or. Al Capone, tiens, aurait-il pu prospérer sans la loi sur la prohibition? Gutenberg, quant à lui, aurait-il quand même inventé l'imprimerie au XVe siècle si on ne lui avait pas prêté de l'argent pour le faire? Autant d'épisodes pour aborder l'histoire de manière ludique et originale et se dire que parfois, un événement ne tient qu'à un battement d'ailes.
Et c'est l'effet papillon, un podcast produit par Initial Studio dont on peut écouter quelques épisodes sur l'appli Radio France. Merci Martin Broyer, bon week-end. 6h13 sur France Inter. Nous partons maintenant à la découverte des communes insolites de Stéphane Côme. Il s'est rendu en Normandie ce matin, plus exactement au sud de Rouen, dans le village de Saint-Germain-de-Pasquier. Cette commune a ce site particulier qu'elle abrite le plus petit hôtel de ville de France. Rapide tour du propriétaire avec Madame la maire, Laurence Lafillet.
Voilà le gabarit. Alors évidemment, on est à la radio, on n'entend pas. Le gabarit, c'est une porte ouverte et on passe.
On va décrire déjà le lieu où on se trouve parce que c'est splendide, c'est bucolique. Il y a un petit ruisseau qui passe.
Qui a toute une histoire.
Avec un petit pont.
Oui. Voilà, vous êtes dans la vallée de l'Oison. L'Oison, c'est donc ce petit ruisseau dont vous parliez, qu'on appelait jadis le Deuet. Sur ses 17 kilomètres, alimentait 17 moulins.
Donc vous êtes la maire de ce petit village qui est en Normandie. On est au sud de Rouen. Hein.
C'est ça.
Et qui a cette particularité d'avoir la plus petite mairie de France.
Mais oui.
C'est plus petit qu'une maison de garde-barrière. C'est un mélange entre une maison de garde-barrière et une cabane de jardin.
C'est une ancienne chapelle. Voilà, la chapelle Sainte-Clotilde. Elle a donc été désacralisée. Et en 1910, le maire de l'époque, M. Marsollet, en a fait l'édifice, la mairie, puisqu'il n'y en avait pas.
Est-ce que vous pouvez nous décrire déjà l'extérieur de ce bâtiment?
Alors, elle a l'aspect d'une chapelle, puisque vous voyez la voûte au-dessus qui existe encore, hein, qui est en pierre. Et puis sa grande particularité, c'est cette petite niche au-dessus de la porte d'entrée où Sainte-Clotilde réside, si je puis dire.
Et les dimensions de ce bâtiment? Parce que, en effet, les autres bâtiments qui sont autour, hein, il y a des grandes maisons, elle paraît vraiment, c'est une maison de poupée.
Bah oui, mais fort bien aménagée. Elle fait environ 8 mètres carrés. Et on a 122 habitants.
Je vous en prie, entrez.
Vous imaginez bien qu'avec 8 mètres carrés, il a fallu penser les choses. Vous voyez comme elle est agencée, c'est-à-dire qu'autour de chaque côté de ce bureau, vous avez 4 strapontins. Donc ça fait donc 8 places, une chaise, et puis la place de notre secrétaire, et c'est aménagé tout autour.
Alors, à quoi servent ces strapontins, en effet? On a l'impression d'être dans le métro.
Jusqu'à la période du Covid, nous faisions nos conseils municipaux ici. Voilà, on rajoutait une chaise ou deux devant ce bureau, et ça allait très très bien. Désormais, on fait le conseil municipal dans la salle des fêtes. Derrière moi, dans ces 8 mètres carrés, vous avez l'isoloir.
De manière semi-circulaire, vous avez une tringle à rideau.
Voilà.
Et il y a un rideau.
Voilà.
Et ça, c'est l'isoloir pour les élections.
Tout à fait, monsieur. Non, on fonctionne exactement comme une grande mairie. Simplement, l'organisation y est différente. Donc, quand j'ai à travailler, je travaille de chez moi. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont dématérialisées, en fait.
Comment vous faites pour les mariages? Toute la famille ne peut pas rentrer, les amis? Comment vous procédez?
Bah, c'est une particularité. Les mariés, les parents des mariés, les témoins, en général, ça rentre. Et ensuite, les gens se positionnent autour de la mairie.
Et à l'extérieur, donc.
À l'extérieur, et entendent et regardent par la fenêtre sur le côté. Ici, ce petit bâtiment, c'est quelque chose qu'on a à cœur, que mes prédécesseurs avaient à cœur. C'est notre patrimoine. Et je pense que mes successeurs garderont cette identité, parce que c'est la nôtre.
C'était les communes insolites de Stéphane Côme à réécouter sur l'application Radio France. Chaque samedi, les radios francophones publiques changent de rythme. C'est l'été, c'est une bonne raison pour ralentir la cadence. Et si l'on pouvait aussi freiner la fonte des glaces. En mai dernier, le village suisse de Blatten avait quasiment disparu de la carte après un effondrement de glaciers. Eh bien, un programme a été lancé par des scientifiques pour explorer de nouvelles pistes afin de limiter ce dégel avec notamment des biomatériaux réfléchissants. C'est le reportage au glacier du Rhône en Valais avec Dominique Chauffat de la RTS. L'eau bouillonne, on se trouve donc à la naissance du Rhône, au cœur des Alpes. On va monter en direction du glacier. On est accompagné de Jérôme Chapelaz, professeur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Il est directeur académique du Centre de Recherche en Environnement Alpin et Polaire de l'EPFL à Sion.
Cette immense moraine, elle correspond à l'étendue maximale du glacier il y a environ 150 ans, à une époque que l'on appelle le petit âge de glace. Et on voit ce retrait spectaculaire depuis 150 ans.
Alors comment ralentir la fonte de ce glacier? La première démarche, c'est de limiter le réchauffement de la planète.
C'est comme quand vous mettez un pullover supplémentaire sur vous. La chaleur du corps ne peut plus s'évacuer et donc la température de votre corps va monter. C'est la même chose avec la Terre. On rajoute des gaz à effet de serre, c'est comme si on rajoutait un pullover. Et ce pullover va garder cette chaleur à la surface de la Terre.
Et la deuxième option sur laquelle planchent les scientifiques, c'est de maintenir la blancheur de la glace.
Quand le glacier est très sombre en surface, il va perdre plus de masse. Parce que l'énergie solaire qui arrive à sa surface va rencontrer une surface plutôt noire ou plutôt marron. Et ça va faire que cette énergie va être captée et va servir à fondre le glacier. Quand la surface est blanche, toute l'énergie solaire va être réfléchie vers l'espace. Donc le moyen simple, c'est de redonner une couleur blanche au glacier. Et une façon entre guillemets simple de le faire, c'est de mettre une bâche blanche qui va recouvrir le glacier et préserver de cette fonte.
Le glacier du Rhône est l'un des premiers à avoir été équipé de ces fameuses bâches, avec un clair objectif économique, histoire de préserver la grotte de glace visitée par les touristes. Mais ces bâches ne sont pas sans conséquences. On retrouve Jérôme Chapelaz.
Il faut acheter les bâches, il faut du personnel pour les mettre en place, il faut des hélicoptères pour les porter sur place. Et quand elles se dégradent, elles émettent des microplastiques dans l'eau de fonte, qui va se retrouver ensuite dans l'eau du Rhône. Donc c'est pas une très très bonne chose sur le plan environnemental.
On redescend juste en dessous du glacier pour apercevoir le lac qui s'est formé à cet endroit.
Ce sont des icebergs. C'est un bout de la langue de glace qui s'est effondré, qui est tombé dans le lac, et la glace finit de fondre dans le lac.
Des icebergs, ça fait drôle d'en apercevoir par chez nous. Ils sont l'emblème de la fonte de nos glaciers. Un programme vient d'être lancé.
Nous avons effectivement pris une initiative internationale pour faire en sorte que en modifiant peut-être les géotextiles, en inventant une autre façon de redonner cette couleur blanche au glacier, on permette très localement de donner une espèce de marge de manœuvre au glacier.
Vous êtes en train de rechercher des financements aujourd'hui. Vous avez imaginé l'utilisation de biomatériaux réfléchissants. On parle de quoi ?
Ça peut être des bactéries, ça peut être des biofilms que l'on va peut-être transformer à l'échelle moléculaire de manière à ce que quand ils sont présents à la surface, ils aient cette couleur extrêmement blanche. Et quand ils se dégradent, ils n'impactent pas l'environnement. Une autre condition, évidemment sine qua non, c'est que le coût de ces matériaux ne soit pas plus important à mettre cet argent dans la décarbonation de nos sociétés. Donc ça, ce sera une métrique très très importante pour valider nos méthodes.
C'est quoi vos sentiments là aujourd'hui ?
Ça fait 40 ans de ma vie que je travaille sur les glaciers. Et ça fait 40 ans de ma vie que je vois ces glaciers petit à petit perdre de la masse. Et c'est un véritable crève-cœur parce que c'est un livre d'histoire, un glacier. Et avec la perte de ces paysages majestueux, on perd en plus une bibliothèque qui est absolument unique et qui ne sera jamais reconstituée.
Le reportage de la RTS en Suisse, signé Dominique Chauffat. Très heureuse de passer ces heures matinales avec vous. En anglais, on dit « happy » et parfois ça fait un tube planétaire. Un refrain si contagieux, pourtant parti de trois fois rien. Une batterie, un piano, une basse, mais surtout donc la joie devenue un hymne, signé Pharrell Williams. Happy sur France Inter, il est 6h25.
France Inter, le 6-9.
Et voici Camille Cronier et ses petits bateaux qui se parent ce matin d'une robe rouge parsemée de points noirs, rappelant celle d'un certain coléoptère qui porte bonheur. Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, bougez pas, elle est sur votre épaule.
Bonjour, je m'appelle Lilinet, j'ai 6 ans et demi et je voudrais savoir si c'est vrai que les points noirs sur les coccinelles, ça veut dire leur âge.
Et merci pour cette question bien mimi, une légende qui traverse les générations d'enfants. Le nombre de points qui correspondraient à l'âge des coccinelles. François Lasserre, vous qui avez créé l'Office pour les insectes et leur environnement, vous les connaissez par cœur les insectes, alors c'est vrai ou pas?
Alors moi j'adorerais parce que ce serait hyper pratique. Envoyer une coccinelle à 2 points, oh, elle a 2 ans, et envoyer une coccinelle à 24 points, oh, elle a 24 ans. Ah, 24 ans, ça commence à faire beaucoup. Oui, il y a presque 100 espèces de coccinelles qui vivent en France, et il y a toutes sortes de quantités de points en fonction des espèces. Mais non, ça n'indique pas leur âge. Aucune coccinelle ne vit 24 ans. C'est le record du nombre de points pour une espèce de coccinelle. D'ailleurs, on l'appelle coccinelle à 24 points. Il y en a même une dite à 22 points que l'on connaît plus ou moins, c'est la petite jaune. Est-ce que ça vous parle? Il y a une petite coccinelle jaune, on l'appelle la coccinelle à 22 points, mais elle ne vit pas 22 ans. Elle vit environ une année à peu près.
Toutes les coccinelles?
Oui, à peu près une année. Mais il y a un truc que j'ai tout de suite appris quand j'ai ouvert un livre sur les insectes, c'est que quand les insectes ont des ailes, ça veut dire qu'ils sont adultes. Et quand on est adulte chez un insecte, on ne change plus. Donc si on est rose, on sera toute sa vie rose. Si on a des rayures, on aura toute sa vie des rayures. Si on a 2 points, on aura toute sa vie 2 points. Et vous le savez, quand les coccinelles soulèvent leurs petits étuis devant, il y a des ailes qui se déplient, elles volent. Et donc, un insecte qui vole, c'est un insecte adulte, il sera comme ça toute sa vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'une toute petite mouche, c'est pas un bébé mouche, puisque si vous la voyez voler, c'est que c'est un adulte d'une petite espèce de mouche.
C'est une petite mouche, quoi.
C'est une petite mouche. Les larves d'insectes, les enfants d'insectes, eux n'ont pas d'ailes. C'est eux qui grandissent et ils n'ont pas d'ailes, comme les bébés de coccinelle. Donc un bébé de coccinelle, quand il sort de l'œuf, il ressemble à une espèce de petite chenille noire qui va grandir petit à petit. Donc il y a la coccinelle à 2 points, la coccinelle à 7 points, qui est assez connue. Les coccinelles arlequins qui ont toutes sortes de points. Donc c'est pas forcément toujours le même nombre de points au sein d'une espèce.
Mais qu'est-ce qui détermine le nombre de points, François Lasserre, sur les coccinelles?
Alors c'est la particularité de chaque espèce. C'est comme le nombre de rayures sur un zèbre. C'est comme le nombre de points sur un hibou, de taches. L'évolution a fait qu'ils sont arrivés comme ça et puis ça fonctionne. Le fait d'avoir 2 points, ça lui permet de vivre, d'être repéré entre mâles et femelles, d'effrayer les prédateurs, etc. C'est arrivé au cours de l'évolution sans intention.
Bon, donc les enfants, désolé, mais c'est pas la réponse. Vous pouvez quand même toujours le croire, mais voilà. C'est pas la vérité.
Moins d'un an en tout.
Ah, la courte vie des coccinelles qui portent vraiment bonheur, tiens ou pas? Ça, c'est une autre question. Salut les matelots!
Les petits bateaux, à retrouver quand vous voulez sur l'appli Radio France.
Et merci Camille Cronier. Les petits bateaux, c'est aussi à retrouver ce soir après les infos de 20h.
France Inter présente...
Savez-vous que la grande exploratrice Ella Mayer a fait du ski en Asie centrale à 5000 mètres d'altitude? Allez, c'est parti! Tous!
Les Odyssées.
Le podcast d'histoire et d'aventure pour les 8-12 ans.
Laure Grand Besançon.
Harriet Tubman, la résistante qui a sauvé 300 esclaves et l'étonnante voyageuse Ella Mayer. Bonnes vacances à toutes et à tous. Et surtout, gros bisous!
Les Odyssées de France Inter.
À télécharger sur l'appli Radio France.
Avec France Inter, un podcast par jour, des acquis pour toujours.
Et avant les infos, le temps de ce samedi.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
C'est avec vous Magali Rochereau. Le temps reste perturbé.
Oui Amélie, en particulier sur le flanc nord-est du pays où des averses circulent déjà près de la Belgique et sous un ciel chargé qui s'étire le long des frontières de l'Est jusqu'aux Pyrénées où les pluies se font plus rares mais où le ciel demeure bien nuageux. Côté ouest, le vent de nord-ouest balaye le Pas-de-Calais et plus au sud aussi, c'est le vent, la principale préoccupation. Mistral et Tramontane atteignent 60 km par heure, en particulier dans la vallée du Rhône et autour du littoral méditerranéen où le risque de feu de forêt est est élevé. Et puis, au thermomètre, c'est frais pour votre réveil avec 11 degrés relevés à Quimper comme à Angers.
Et cet après-midi, le soleil brille à l'ouest du pays.
Oui, sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique, le temps sera délicieux, comme au sud jusqu'en Méditerranée aussi, où le ciel est bien dégagé, tandis que la perturbation se maintient sur le nord-est, provoquant quelques orages au-dessus du Jura, mais plus on tend vers l'Île-de-France et plus les averses s'estompent. Côté température, les maximales restent bien modestes, de 20 à 25 degrés sur la moitié nord, mais elles sont stationnaires dans le sud, avec plus de 30 degrés sur l'ensemble du golfe du Lion.
Merci Magali Rochereau, et merci à vous d'écouter France Inter, il est 6h30. C'est le journal de François Chagnot. Bonjour François.
Bonjour Amélie, bonjour à tous. Journée noire sur la route des vacances, y compris pour les véhicules verts, électriques. Ils sont de plus en plus nombreux sur les routes. Ce n'était arrivé que deux fois depuis la fin de la guerre froide. Les États-Unis mobilisent deux sous-marins nucléaires en réponse à des propos de Moscou jugés provoquants. Le ton monte entre Washington et Moscou. Un réseau de voleurs de câbles en cuivre particulièrement organisé, démantelé par les gendarmes de Loire-Atlantique. Et puis en fin de journal, la fin de loup de la cycliste Pauline Ferrand-Prévot pour le col de la Madeleine, point d'arrivée de la 8e étape du Tour de France.
France Inter.
Si vous êtes déjà au volant sur la route des vacances, c'était une bonne idée de partir tôt. Bison futé, voie noire dans le sens des départs pour ce premier jour de chassé croisé dans les bouchons. Et aux aires d'autoroute, vous allez forcément croiser des voitures électriques. Elles sont de plus en plus nombreuses, il faut dire. Marie-Maëu, que voyager à l'électrique, c'est beaucoup plus simple ces dernières années.
Il ne lui faut que quelques minutes pour sortir son téléphone et indiquer son trajet.
En Bretagne pour ce week-end, donc à peu près 500 km.
Et depuis son village de l'Essonne, Christophe trouve la borne qu'il cherche pour la pause midi hors du réseau autoroutier.
Vers Alençon par exemple, j'ai trouvé une station et à proximité de laquelle il y a du McDonald's, du Burger King pour les enfants, je pense qu'ils seront très contents.
Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à embarquer tongs et pareo dans le coffre d'une voiture électrique. Rassuré par les 170 000 points de recharge ouverts au public selon Enedis, en ville, au pied des supermarchés et sur toutes les aires de service des autoroutes, à celle de Limours, Genvry, sur la 10 près de Paris, les 15 bornes de charge sont quasiment toutes occupées.
Bonjour monsieur, vous payez par carte bancaire?
Noélie fait partie des bornistes déployés en renfort cet été pour aider les novices de la recharge. Car le paiement laisse parfois perplexe, tant les applications et cartes d'abonnement sont nombreuses suivant les stations. Noélie aide Cathy qui part à Saint-Brieuc.
C'est la première fois que je pars avec cette voiture pour faire autant de trajets. Et du coup, c'est un peu compliqué, mais je pense que ça va être une habitude. Hein.
Le prix, lui, varie d'une borne à l'autre, ce que dénoncent des associations de consommateurs. Mais Julien n'en démord pas.
Si on fait des recharges à la maison, qu'on fait entre 2 et 300 km jour au grand max, c'est très économique. On doit être à 5-6 euros du 100 km et si on charge en station, on va être une dizaine, entre 10 et 12 euros les 100 km, donc ce qui est plus intéressant qu'une essence.
La recharge est rapide.
Ouais, je repars d'ici 10-15 minutes à peu près.
Juste le temps de prendre un café, direction les vacances.
Voilà, il va falloir prendre son mal en patience. Il y a habituellement jusqu'à 700 km de bouchons à midi, selon Bison Futé.
Les États-Unis montrent les muscles nucléaires face à la Russie.
Oui, Donald Trump déploie deux sous-marins nucléaires dans des zones, je cite, appropriées. Réponse à des propos jugés idiots et incendiaires de l'ancien président russe, Dmitri Medvedev, le numéro 2 du Conseil de sécurité russe, considère les ultimatums américains sur le conflit ukrainien comme une menace et un pas vers la guerre avec les États-Unis. Pas de doute donc, le ton se durcit entre Moscou et Washington, analyse le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU.
Ça marque très certainement un changement de ton de la part du président américain. Il faut se rappeler que M. Medvedev, depuis 3 ans, n'arrête pas d'aller aux extrêmes. On prétend qu'il est un peu le fou de M. Poutine. Et donc, on ne tenait pas tellement compte de ces diatribes depuis 3 ans. Si le président Trump prend prétexte des dernières déclarations, c'est pour saisir une occasion de marquer le changement de ton qu'il prend vis-à-vis de la Russie. Il faut rappeler aussi que les sous-marins nucléaires, on pense que c'est les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, bien sûr. Il y en a 14 aux États-Unis, dont 4 sont en plongée permanente. Donc là, si on parle d'en envoyer 2 supplémentaires, ça fait près de la moitié des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins américains qui sont en alerte. Et là, c'est un signe très sérieux vis-à-vis de la Russie dans le bras de fer qui l'oppose maintenant directement, la Russie aux États-Unis.
Et sur le terrain en Ukraine, les troupes russes ont pris 3 fois plus de terrain ce mois-ci qu'en juillet dernier et lancé un nombre record de drones, 6300 pour ce mois de juillet. Donald Trump durcit également le ton sur le terrain commercial. Les bourses européennes et les marchés américains sont en baisse après la signature des décrets d'application des droits de douane. Presque moins 3% pour le CAC 40. Une des conséquences de cette guerre commerciale américaine, c'est l'explosion du prix du cuivre. La tonne de ce métal essentiel pour nos réseaux électriques et ferroviaires a pris 2000 euros en 5 ans. Alors forcément, ça attise la convoitise des voleurs. Jules Haus, la gendarmerie de Nantes vient justement d'arrêter 3 hommes d'origine roumaine soupçonnés de sévir depuis plusieurs mois en Loire-Atlantique et dans le Maine-et-Loire.
Ouais, je suis plutôt bien placée. C'est vrai que je me sens encore bien, donc c'est ça qui est plutôt positif, c'est que je suis pas cramée. Je m'étais promis de rester calme, donc je me suis dit voilà, ma course elle est...
La brigade de recherche de Nantes parle d'un réseau particulièrement bien organisé. Lors de leur périple, les voleurs de câbles montaient à bord de plusieurs véhicules, un premier qui surveillait la zone et les autres chargés de retirer les câbles. Le colonel Coirier est chef des opérations du groupement de gendarmerie de Loire-Atlantique.
En fait, il repère les trappes d'accès au réseau enterré entre deux trappes où ils coupent le tronçon, ils attachent d'un côté un véhicule et ils tirent l'ensemble du câble découpé. Ils le transportent ensuite dans un champ pour pouvoir le découper en sections. Ils peuvent charger comme ça jusqu'à 1 à 2 tonnes dans un véhicule.
2 tonnes de câbles, c'est ce que les gendarmes ont retrouvé dans le coffre d'une voiture break après leur intervention de mardi. Une opération planifiée avec une trentaine d'agents après plusieurs semaines d'enquête.
Ces équipes identifiées, nous les remontons sur 21 faits commis. C'est souvent du vol d'opportunité. Ils s'intéressent à tout ce qu'ils peuvent récupérer en termes de câblage sur la voie publique.
Le préjudice est d'environ 700 000 euros. Selon les gendarmes, l'enquête doit encore déterminer où ont été stockées et revendues ces tonnes de cuivre.
La justice a ouvert une information pour vol aggravé, recel et association de malfaiteurs. Un procès pour viol contre le défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. C'est ce qu'a requis hier le parquet de Nanterre. L'international marocain est accusé d'avoir violé une femme à son domicile en 2023. Le joueur affirme l'avoir seulement embrassé. C'est maintenant au juge d'instruction de confirmer ou non le réquisitoire du parquet.
Les routes du Tour de France. Femmes n'oublieront jamais son nom.
Et la Bretonne Maëva Squiban est la première cycliste française à gagner 2 étapes de suite sur le Tour de France. Exploit réalisé hier entre Bourg-en-Bresse et Chambéry. Chambéry, c'est le point de départ de l'étape reine du jour avec une arrivée à presque 2000 mètres d'altitude au col de la Madeleine. Et c'est là qu'on attend une autre Française, Pauline Ferrand-Prévot, 2e du classement général.
Ouais, je suis plutôt bien placée. C'est vrai que je me sens encore bien, donc c'est ça qui est plutôt positif, c'est que je suis pas cramée. Je m'étais promis de rester calme, donc je me suis dit voilà, ma course elle est aujourd'hui. Tout va clairement se jouer, je pense, sur cette ascension. Je pense que c'est important de rester calme et de faire du mieux que je peux. C'est vrai que ça va être 1h20, 1h30 de montée. C'est un effort que j'ai l'habitude de faire en VTT, donc je pense que ça va être vraiment voilà, une course. Un contre un et je vais essayer de me concentrer sur moi et mon effort.
Pauline Ferrand-Prévot, au micro de Fanny Lechevestrier. Le départ de l'étape du jour, la 8e entre Chambéry et le col de la Madeleine, c'est à 13h45. On revient sur le parcours de cette étape reine dans le journal de 7h30. À 13h40, autre départ aux Mondiaux Natation de Singapour. Cette fois, Maxime Grousset va tenter d'aller décrocher une médaille en finale du 100 mètres papillon. Après sa victoire cette semaine sur le 50 mètres papillon également. Hier, Johan Ndoye-Brouard a décroché le bronze sur le 200 mètres d'eau.
C'était le journal de François Chagnot. Merci François.
France Inter présente
Espion, une histoire vraie, saison 6.
Stéphanie Duncan.
Je vous invite sur les traces des grands agents secrets. États-Unis, Russie, Royaume-Uni, France, Argentine ou Lettonie, plongeons dans les eaux troubles de l'histoire avec ces femmes et ces hommes au destin hors du commun.
Espion, une histoire vraie.
Chaque samedi à 13h20 sur France Inter et toute la série à télécharger sur l'application Radio France.
Dans un instant, les unes de la presse et l'histoire du jour, mais tout de suite, la rappeuse Little Sims et un extrait de son 6e album. On écoute Free en playlist d'été sur France Inter.
Love is forgiving yourself. I think that love is offering your immediate help. I think that love is everything that we need in this world. I think the key is being honest and being yourself. I think love is understanding that people can change and loving them anyway through every stage. I read all about love, then I gave it to Jade. Love is sharing knowledge, there's so much to gain. Love is every time I put pen to the page. If I don't love what I'm doing, then I'm hardly engaged, yeah. God, you love me though I am flawed. I know I'm not an innocent child, but I am yours. And if you're with me, you are safe. I know my body isn't immortal, but I am brave. I think you know it's real love when it's sincere. I'm a show on my ain't scared, eradicate fear, yeah. Trusting yourself. I think that fear is keeping true information withheld. I think fear can be exposed in abundance of wealth, and it creeps in when you're not loving yourself. Fear can be dressed in a form of protection. Fear can be the culprit of slowing progression. Can be impulsive and be an obsession. I think we fear all the answers, so we don't ask the questions, yeah. I think that shit is a lethal weapon. I think we fear being naked from the fear of rejection. If beauty is in the eye of the beholder, then why are we obsessed with seeking perfection? Fear will probably hear this and feel exposed. Fear works best when love isn't close. But love will never judge you because of your pain. Look in the mirror and say, I'll love you unconditionally every day. I've always been. Why they always wanna hate when the love is? Hear me now, my check, it was 1, 2. One mobile, one enough, so I had to get. I remember when they said nothing in life is. Evil spirits cannot enter when your soul is. MJ said he got the tunes, I should pull up at. Every time I bust a lyric, I've been feeling so. Every time I'm on the stage, I've been feeling so.
Little Sims, on la retrouve sur scène pour une seule et unique date française. Ce sera le 30 septembre au Zénith de Paris à la Villette. Il est 6h42, c'est l'heure de la revue de presse.
Le 6-9 sur France Inter.
Et c'est vous qui tenez le kiosque ce week-end. Bonjour Angèle.
Bonjour.
Quels sont les titres à la une des journaux ce matin?
Eh bien, il est beaucoup question de vacances, bien sûr, des conseils pour des vacances zen à la une de la Dépêche du Midi, ou encore ces services qui facilitent les vacances de nos enfants dans Ouest France, comme le service Junior et compagnie de la SNCF. Dans les colonnes du journal, on découvre Stéphane, un animateur de 21 ans qui clame au-dessus du vacarme des au revoir. Je vous invite à faire les câlins et les bisous tout de suite. Ce matin-là, 19 enfants entre 4 et 14 ans voyagent seuls direction la gare de Lyon-Perrache avec 3 animateurs. Une fois sa place trouvée, les règles sont rappelées. Pas de cris, pas de déplacement inutile et pas d'échange de goûter. Dans un camping du Puy-de-Dôme, les vacanciers, eux, n'ont pas eu besoin d'utiliser ce service. Les vacances, c'est sans enfants. Depuis 2018, les enfants de moins de 16 ans ne sont pas admis ici. Des vacances dites « no kids », un sujet tabou qui concernerait 10 lieux touristique sur plus de 20 000 en France, soit 0,0,5%. Le Télégramme, lui, nous emmène en Bretagne, non pas avec ses plages, mais avec ce sourire, bien sûr, celui de Maëva Skiban. Une incroyable Maëva qui a remporté la 6e étape du Tour de France dans le Puy-de-Dôme, après 30 km en solo. Originaire de Gouesnou, près de Brest, elle était déjà victorieuse en solitaire jeudi dernier. Vacances toujours dans vos journaux ce matin, mais avec prudence, le Parisien alerte sur le risque de noyade, puisque le nombre d'accidents dans l'eau s'élève déjà à 702 depuis le début de la saison, nous dit le journal. Il faut apprendre à nager et le plus tôt possible, sauf que 5000 maîtres-nageurs manquent à l'appel. Résultat, de moins en moins de cours dans les piscines, elles-mêmes bondées. Alors tous les moyens sont bons pour prévenir les drames, comme aller à la rencontre des collégiens. C'est ce qu'ont fait des CRS dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Aller à la rencontre des ados pour leur rappeler les bons gestes à adopter avant l'été. Ne pas lutter contre le courant, se laisser porter et faire des signes pour donner l'alerte.
Ce matin, dans les journaux, on tente aussi d'apprendre à nager face aux vagues du monde.
Ces vagues qui s'agitent autour du commerce mondial à la une du Monde. Commerce mondial, l'ère de la loi du plus fort. Titre, le journal, après les nouvelles annonces de Donald Trump, ce décret qui impose une hausse des droits de douane à des dizaines de pays dans le monde. L'ère de la loi du plus fort dans un air parfois irrespirable ici, mais qu'il est bien plus qu'à Gaza. Difficile de respirer aussi en voyant ce titre. Les Gazaouis risquent leur vie pour un kilo de farine. Constat d'Antoine Renard dans les colonnes du Monde toujours. Il est directeur du programme alimentaire mondial en Palestine. Comment dormir face aux actualités du monde, d'autant que certains profitent de nos insomnies. C'est à la une de Libération, insomnie, un business de rêve, alors que notre temps de sommeil a été réduit d'une heure et demie par rapport à il y a 50 ans. Alors oui, il y a bien les conseils classiques, pas d'écran avant de dormir, pas trop d'alcool ni trop de café, mais d'autres misent sur des bagues connectées pour mesurer le sommeil ou bien sur ces hôtels avec suite sommeil réparateur, ces retraites sommeil à 1 258 € la nuit pour deux. Attention quand même à ne pas se faire plumer l'oreiller.
Ah, effectivement, et quel est votre choix du jour, Angèle?
Et bien, il se trouve dans l'hebdomadaire Le Point. J'y découvre l'histoire et le quotidien de Cinzia Pascali. Elle est restauratrice et appelée par le journal l'italienne au doigt d'or. Entre ses mains passent depuis des décennies les plus grands chefs-d'œuvre. En ce moment, elle restaure l'un des plus célèbres tableaux de l'art moderne, un enterrement à Ornans de Gustave Courbet. Plus de 7 mètres de long, 3 mètres de haut, 27 personnages, une ambiance lourde, pesante, surtout qu'il lui manquait jusque-là quelques lumières. Gustave Courbet, paraît-il, mélangeait des huiles et des pigments qui ne font pas bon ménage lorsque le tableau vieillit. Alors aujourd'hui, des détails réapparaissent au fur et à mesure de la restauration. Le ciel et les vêtements ont changé de couleur, des vernis font réapparaître les fantômes. Pour être un bon restaurateur, il ne faut pas se prendre pour un artiste, nous dit Cinzia Pascali. Alors qu'en restauration, un peu comme en chirurgie, une erreur peut être irrémédiable. Son travail et d'autres restaurateurs est observable en direct au musée d'Orsay à travers des parois vitrées jusqu'au printemps 2026.
Merci Angèle Châtelier. On vous retrouve tout à l'heure à 9h moins le quart pour votre revue de presse version long format. On écoute le temps qui passe aussi ce week-end dans Regards croisés. La journaliste non-voyante Laetitia Bernard rencontre le maître horloger Philippe Lebru dans la manufacture contemporaine qu'il a fondée il y a 30 ans à Besançon. La manufacture Utinam, c'est son nom.
Philippe Lebru, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots à quoi vous ressemblez physiquement, s'il vous plaît?
Je suis barbu. Dans le métier, on m'appelle même le barbu.
J'aimerais qu'on prenne juste quelques secondes, parce que quand je suis rentrée, ça m'a sauté aux oreilles, j'allais dire, pour écouter ce qu'on entend autour de nous. On est entouré de tic-tac d'horloges. Ils ne sont pas forcément tout pile synchronisés ensemble. Il y en a des très délicats, on dirait des gouttes d'eau. Il y en a des plus classiques qui me rappellent un peu l'horloge comtoise de ma grand-mère dans mon enfance.
Je pense qu'il y a à peu près 20 horloges autour de nous, qu'elles soient murales ou debout. Et ces horloges vont être légèrement désynchronisées puisqu'elles n'ont pas été lancées en même temps. Sachant que ces horloges ne sont pas enfermées dans des caisses en bois, comme l'était l'horloge comtoise de ma grand-mère, ou de la vôtre. Mais elles sont à l'air libre.
Ah, ça veut dire qu'on voit le balancier, qu'on voit le mécanisme et tout ça?
On voit tout.
Est-ce que je peux en toucher ou...
Oui, bien sûr, oui. Alors, je vais vous présenter la première, elle s'appelle Hortense.
Ah, elles ont des prénoms.
Vous êtes en face d'Hortense, elle fait 2,20 m et elle est en métal, c'est une lame... C'est une lame de métal très fine de 4 mm.
Ah oui, effectivement, c'est plus comme... Enfin, c'est pas... Ah oui.
Ça n'a, on va dire, pas grand-chose à voir. Sinon, fait qu'on conserve le système de poids et de balancier.
Mm-hmm. Ah oui, c'est-à-dire que quand on met les mains sur le métal, on sent un petit peu les vibrations du balancier.
C'est ça.
Et du coup, j'allais vous anticiper une question que j'allais vous poser, c'est est-ce qu'on peut lire l'heure avec les doigts. Est-ce qu'on peut voir l'heure avec les doigts sur ces horloges? On peut un
alors,
peu.
Alors, allez-y, mais, montez que... encore les mains. Elle... Hop.
Mais au niveau des aiguilles, je peux là, y accéder. Voilà. Ou...
L'aiguille, 2 minutes.
Alors, et du coup, je peux voir où elle est. Elle est au... quasiment au écart.
Et là, vous touchez l'aiguille d'heure. Là.
L'aiguille d'heure, elle est entre 4h et 5h, je dirais. Elle non, pas du tout. Entre 3h et 4h.
C'est ça. Donc mais il est 3h15
sur cette montre-là, pas sur cette horloge.
L'horloge est totalement libre et c'est clair qu'avec les doigts, vous pouvez lire l'heure.
Justement, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on lit plus facilement l'heure sur son téléphone ou sur différents objets connectés autour de nous. Donc l'horloge a quelque part un nouvel usage ou une nouvelle manière d'être, comment vous le définiriez ?
L'horloge telle qu'on la conçoit chez Utinam n'est pas une horloge à part entière au sens strict de l'objet qui va fournir une fonction, la fonction de l'indication du temps. On est plus aujourd'hui dans l'idée d'une œuvre d'art mécanique.
Elle ne sonne pas, vos horloges ? Il n'y a pas de son, il n'y a pas de carillon ?
Non.
Pourquoi ?
Dans notre époque, on vit avec des téléphones qui va rappeler des messages, sonner en permanence pour des appels ou pour des signaux qui vont nous rappeler à des rendez-vous. Et quand on est chez soi, ça ne veut pas dire qu'on ne souhaite pas s'organiser, mais ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un autre élément qui rappelle l'organisation, puisque les sonneries avaient cette fonction d'organiser à l'oreille, avec sous une dimension sonore, les rythmes de la maison. Donc, on a changé de manière de vivre. L'horloge aujourd'hui est plus un objet qui va être un. Pour moi, ces horloges, c'est comme des aquariums. C'est-à-dire qu'on est plus dans l'idée d'une pièce qui est très apaisante, je dirais presque hypnotique. Et qui va nous mettre, on va dire, la famille ou les personnes dans un état de tranquillité.
Regard croisé. Merci Laetitia Bernard. On vous retrouve demain pour le deuxième épisode. Et avant le billet de l'humoriste Alexandre Cominec, on écoute les verbes taquins de Brigitte Fontaine. En 2001, elle chantait sur son album L'un n'empêche pas l'autre que l'amour, c'est vraiment du pipeau.
L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Jusque dans les WC, j'en peux plus par pitié. Faudrait changer de disque, entreprise à haut risque. Les curés en chaleur, les idoles en pleurs. Les mémés les plus louches, n'ont que ça à la bouche. À de grâce arrêtez de vous badigeonner. De cette pub idiote, j'en ai plein la culotte. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. Barre de dégoulinant, scribouillard pleurnichant. Délicat militaire, épargné nouveau glaire. Vénus au stade creuse, mais la dent conveilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Vénus au stade creuse, mais la dent corveilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos.
De Brigitte Fontaine. Merci d'écouter France Inter.
France Inter.
Oui, l'humour d'Inter, on en a, vous l'avez entendu. On réécoute ce matin également Alexandre Kominac, ou plutôt l'un de ses personnages, un rappeur suisse dans la bande originale de Nagui et Laila Kadour Boudadi.
Après l'altercation survenue entre le rappeur français Gazo et l'américain Offset, après le tournage de leur clip, je voulais revenir sur les clashs dans le milieu du rap, car ils sont nombreux. Pour en parler, nous recevons un rappeur un peu particulier aujourd'hui. Il nous vient de Genève, de Cologny précisément. C'est le rappeur Millionnaire. Bonjour.
Bonjour. Merci France Inter. Enfin, ça fait bizarre, pardon, je vous le dis, ça fait bizarre vraiment d'être sur France Inter parce que j'écoute jamais France Inter. Mais merci pour l'invitation, Madame Salamé. Vraiment, c'est... Non, mais c'est vrai que j'écoute pas Inter. Enfin, t'écoutes pas une radio de gauche quand tu roules en classe G. Hein. C'est simple, je capte même pas les ondes. Donc vraiment. Mais d'ailleurs, ça doit vous faire bizarre à vous hein, d'accueillir un artiste comme moi, parce que d'habitude, vos artistes ici, c'est quoi? C'est Pop, Zaouk Sagazan, Julien Doré. C'est peut-être pour ça que ça sent la soupe dans le studio.
Bah, on est ouvert à tout le monde en fait. C'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui, Millionnaire.
Ah ouais, bah c'est super. D'ailleurs, je tiens à préciser que Millionnaire, c'est un blaze. Hein. C'est pour faire plus proche du peuple. En vrai, je suis milliardaire.
Ça veut dire que vous êtes né avec une cuillère d'argent dans la bouche.
Ah, je dirais plus que je suis sorti d'une schneck de platine. Voilà, c'est... Non, vraiment, Madame Salamé, j'ai grandi à Cologny, à Genève, en Suisse. C'est l'équivalent de Neuilly. Si Neuilly, c'était pas devenu une sorte de Sevran West Coast, quoi. C'est... Non, pour vous dire, à Cologny, tu fais tomber un billet de 50, on te verbalise pour abandon de déchets sur la voie publique. Mais à Cologny, il n'y a pas de HLM. Hein. Vraiment, il n'y a pas de terrain vague. Chez nous, un terrain vague, on appelle ça une parcelle. Voilà. Hein. Et c'est 30 000 le mètre carré. Le clash dans le rap, franchement, Madame Salamé, moi, je m'en bats les couilles. Je vous le dis, même Booba, vraiment, je m'en tape. De toute façon, il n'a pas intérêt à faire le malin. Il est locataire dans mon immeuble Ngami. Ah, donc, s'il clash, hop, j'augmente les charges. Boum, tu vas faire quoi? Il y a quoi, gros? Il y a quoi? Ah, non, mais même Ruff, une fois, il a trop parlé. J'ai augmenté. Hop, fin de carrière. Voilà. En plus, le pauvre, il logeait dans le 7-7, lui.
Vous possédez de l'immobilier dans le 7-7?
Oui, je possède le 77. Vraiment, le 77, le 43 et le 102.
Mais ça n'existe pas?
Pas encore, mais ça arrive bientôt, la famille. Je suis en fit avec Elon Musk. Là. Ouais, pour faire un département français sans français. Quoi que tu me diras, il y a déjà la Seine-Saint-Denis. Mais non, mais écoute-moi, Nagui, moi je te parle d'une France sans, voilà, une vraie France sans française, sans gilets jaunes, avec des chômeurs qui cherchent vraiment du travail, avec un périph sans dos d'âne.
Et sans fonctionnaire alors.
C'est quoi ça? Ça se mange? Ah, tu dis les gens. Là, oh bah, putain, mais ça c'est du génie ça. Les... Hey, tu sais que je t'adore toi. Tu sais pourquoi? Parce que t'es un peu le côté street de cette émission.
Ah, vous dites ça parce que je suis arabe.
Ouais.
Ben c'est raciste.
Ouais. Non mais j'ai plein de copains arabes. Hein. Attention, hein, j'ai plein de copains qui viennent d'Arabie Saoudite, du Koweït, du Qatar.
Est-ce qu'on peut avoir un extrait?
Bah vas-y, bah, on fait un petit freestyle si t'as une instru, balance. 1, France Inter, oh yeah, freestyle pour les cyclistes, pour les gauchistes, libérez Clément. Millionnaire sur vos millions de mers, j'ai des millions sur des comptes à des milliers de kilomètres. J'ai pas besoin de percer, dans l'argent j'ai bercé. Et si je veux faire un concert, bah j'achète Bercy. C'est le rappeur de droite, c'est le rappeur des milliardaires. Je dédicace aux frérots Bolloré et Lagardère. J'ai jamais connu la rue, ni les survêtes, ni les baggy. À 12 ans je traînais en boîte avec Jean Rocard, avec Nagui. J'aime les RIB et les SUV, les IBAN, les BIC, les Swift et les HSBC. Bah écoute l'écologie, j'ai un gros jet qui tue. J'ai toujours une paille dans le nez, on me surnomme la tortue. Dans ma Merco, j'écoute Sarko avec ma Michto. Et quand t'aimes sous le trop, je fais du Pascal Pro. À 200 sur la voie de gauche, pourtant je roule à droite. J'ai toujours les doigts qui puent là et les filles, je lui mets les wads. Millionnaire sur vos millions de mers, j'ai des millions sur des comptes à des milliers de kilomètres. Allez, à plus les gauchos!
Alexandre Kominac a retrouvé en podcast et en vidéo sur la chaîne YouTube de France Inter. La météo est à suivre.
Cet été, faites-vous des films sur France Inter.
Avec Alain Delon.
Samedi 10h, Laurent Delmas.
Alain Delon, c'est Rocco, le samouraï, Monsieur Klein ou Jules César.
César a tout réussi, tout conquis.
C'est 80 films, des chefs-d'œuvre ou des nanars à oublier.
Je suis un accident.
À travers des archives, des extraits de films et de nombreux témoignages inédits, Delon se raconte lui-même.
Delon par Delon.
C'est tous les samedis à partir de 10h sur France Inter.
Et toute la série en podcast sur l'application Radio France.
Et tout de suite la météo donc.
La météo avec la MAE.
à l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Magali Rochereau, le ciel est chargé près des frontières de l'Est.
Et oui Amélie, c'est assez nuageux ce matin des Alpes au nord-est avec des averses fréquentes sur le relief des Alpes et un temps pluvieux le long de la frontière belge. À l'arrière des Hauts-de-France au nord des Alpes et sur l'Auvergne, un ciel variable se met en place avec quelques ondées possibles et le soleil s'impose dans le sud-ouest comme sur l'ensemble de la moitié ouest au fil des heures après un début de journée gris. Quelques averses quand même sont à prévoir côté Pyrénées et Mercantour et puis Mistral, Tramontane et vent d'ouest sur les côtes varoises sont toujours d'actualité avec des rafales autour de 50 à 60 km par heure.
Et les températures restent fraîches.
Oui, à votre réveil, les minimales affichent 8 à 14 degrés sur la moitié nord, 13 à 18 dans le sud et de 19 à 22 degrés en bord de Méditerranée. Plus tard, dans la journée, Météo France prévoit des maximales entre 19 à 22 degrés sur les bords de Manche, de 20 à 26 sur le nord du pays, de 24